Chapitre 3. Coucou, tonton, c'est moi. La porte s'ouvrait brusquement sur la nièce et filleule du vieil homme. Elle entrait en souriant comme un ouragan. C'était Jeanne, fraîche jeune femme aux joues rebondies, rose comme ses bras nus. Elle portait une longue jupe de grosse toile à carreaux rouges et blancs, sous laquelle on devinait des cuisses fermes. Jeanne avait les cheveux blonds, épais, coupés en carrés sur les épaules. Son charme n'avait rien de ces grâces éthérées que l'on prête aux madones des peintures. Il était plus direct, presque palpable. « Tu m'as l'air bien joyeuse ce matin, tu viens d'aller voir ton promis. »« Mais enfin, tonton, tu sais bien que c'est toi, mon promis. »« Ah, c'est vrai, j'oubliais. »« Toujours pas de nouvelles de Rome ?» C'était leur plus vieille plaisanterie. Depuis toujours, il était convenu qu'il l'épouserait dès que le pape l'aurait relevé de ses vœux ecclésiastiques, mais le courrier n'arrivait jamais. En réalité, Jeanne était toujours Catherinette à l'âge de 26 ans. Cet âge n'était pas encore canonique, mais c'était aussi celui où la plupart des femmes traînaient derrière elles une ribambelle d'enfants. De Rome, et non, toujours rien, c'est un cas difficile, et le bon Urbain VIII a bien eu mal à se décider. Ah, dans ce cas, je vais aller moi-même en Italie pour plaider notre cause. Ne fais pas cela, malheureuse, le jour où il te verra, c'est lui qui désertera le trône de Saint-Pierre pour se sauver avec toi. Et il s'esclaffait. Le vieil homme, toutefois, tâchait de ne pas trop rire et respirait calmement, craignant la crise. « Et toi, comment vas-tu ce matin ?»« Oh, pas plus mal pour l'instant, mais la nuit était dure. Un de ces jours, j'y resterai, c'est sûr. » Il annonçait ainsi à tous sa fin prochaine, avec bonhomie, presque avec malice. Ce visiteur trouvait toujours de bon ton de protester, la main sur le cœur, et affectait de lui découvrir bien meilleure mine. Malgré l'étonnement de le voir ainsi changé et la pitié qu'il leur voyait dans le regard, il les entendait dire « Allons, ne viens pas encore parler de cela, tu vas déjà mieux, dans quelques semaines tu joueras de nouveau de l'orgue à Notre-Dame et tu monteras te promener au château. » Seule Jeanne ne se sentait pas tenue de le démentir et il lui en savait gré. Ils avaient souvent parlé de l'heure dernière qu'il attendait sans crainte, mais non sans un peu de tristesse. Ils se turent un instant en pensant à la même chose. « Que veux-tu ? Je ne me fais pas l'idée de devoir quitter tout cela, » reprit-il, avec un geste qui, au-delà de la petite fenêtre, devait englober le monde. « De devoir te quitter aussi, ma petite. Mais, allons, je suis comme le vilain enfant qui a mangé sa part de gâteau et qui lorne celle de son frère. Songeons plutôt à mettre nos petites affaires en ordre. Je le demanderai bien à ta mère, mais elle me ferait encore une scène. Hein. Peux-tu aller de ma part chez les religieux de M. Saint-François ? Bien sûr, où se trouve-t-il ? Enfin, tu sais bien, je t'ai mené là souvent, quand tu étais petite. Et si tu es chanoine, je ne suis pas honnête, et il y a Namur que chapitre, couvent, ermite et béguine, je ne m'y retrouve plus. C'est au-delà de la porte aux Youles, dans le quartier des Tanneries. Ah, je vois, près du petit pont sur le ruisseau. C'est ça, les béguines sont avant le pont, et l'église des petits frères de l'autre côté. Tu demanderas à voir le supérieur, le frère Benoît. Et que lui dirais-je, petit frère, mon bon oncle le chanoine vous manque d'urgence, car il veut me conduire à l'autel, et il ne veut recevoir de nul autre que vous la bénédiction nuptiale. Tu peux lui dire, c'est un homme à rire, il rira bien. Non, c'est hélas d'autre chose qu'il s'agit. Jeanne se leva et fit mine d'aller examiner le tableau des mages. Les larmes lui venaient aux yeux et elle ne voulait pas qu'il la vît. Il poursuivait. « Il y a chez les petits frères un assez joli cloître où j'aimerais laisser ma vieille carcasse. Il est paisible, fait de belles pierres grises, l'herbe est verte, et on entend de là le clapotis de la Meuse. J'y serai en bonne compagnie, comme tu sais, j'ai toujours eu pour ces gens-là une estime particulière. Je croyais que tu préférais les jésuites, » fit-elle sur un ton d'ironie. « Je les aime aussi, c'est vrai, mais d'une autre façon. D'ailleurs, il n'en est pas encore mort assez, je serai chez eux un peu solitaire. » La jeune femme ne s'était pas retournée. Elle changea de sujet, parlant du tableau. « Je me demande pourquoi tu gardes devant toi ces faces de carême. Je crois que si j'avais les mêmes au pied de mon lit, je ferais des cauchemars toute la nuit. » « C'est une vieille histoire, la vieille peut-être que je ne t'ai pas encore racontée. Je le ferai bientôt, il n'y a plus péril dans la demeure. Mais pour ta petite commission, c'est entendu. C'est entendu, j'irai. Dieu te garde, tonton. » Et elle sortit aussi promptement qu'elle était entrée. La diligence passa les portes, l'octroi, et les quatre forts chevaux la hissèrent sur la pente de la route de Bruxelles. Nous jetions derrière nous un dernier regard sur Namur. La ville serrait en ses remparts les boucles de Sambre et de Meuse, Ces clochers multiples lançaient leurs sonneries dans l'air du matin, au-delà des murailles, jusqu'aux douces pentes et aux forêts du château. C'est l'image de cette lumineuse verdure, de ces bois et de ces prés, qui allait me rester en tête et me manquer tant d'années. Nous regardions les champs alentour, les villages, les gens peinant à travailler la terre. Des bouffées d'allégresse me montaient à la tête. J'avais envie de leur crier « Regardez-moi, braves gens, je suis Jean Dufond, de Namur, le petit chanteur du roi d'Espagne. » Le conducteur nous indiquait les noms des villages, Sombref, Marbais, et nous traversions déjà les belles terres des moines de Villers. Les campagnes étaient plus riches qu'ailleurs, les blés semblaient pousser plus drus. J'en fis la remarque au voiturier. « Riche, tu l'as dit, gamin, ces moines de Villers, tout le pays est à eux. Ce sont des mille et des mille bonniers qu'ils ont, alors que le pauvre peuple crève la misère. Les curés, c'est pas des gens. » Je le soupçonnais d'être un de ces maudits huguenots contre lesquels les chanoines nous avaient si souvent mis en garde. Diplomate, je lui fis remarquer que l'opulence des campagnes tenait peut-être aussi à ce qu'elles étaient mieux tenues. « N'empêche, conclut-il, les curés, c'est pas des gens. » Et il ponctua cet avis péremptoire d'un long jet de salive qui alla former une petite flaque sur le bord du chemin. Pendant au moins une lieue, nous nous appliquâmes à l'imiter, mais avec un résultat bien plus dispersé. Ce petit jeu nous dessécha la gorge, et à l'arrêt de genappe où l'on détla, on tomba à point pour nous désaltérer. On repartit, après le casse-croûte, pour traverser le grand bois de Sogne, au bout duquel devait se trouver Bruxelles. J'avais du mal à imaginer qu'une grande ville pût se trouver au cœur d'une aussi profonde forêt, qui me semblait plus vaste encore que celle du désert de Marlagne. « Ouvrez l'œil, les gamins, prévint notre phaéton, ces bois sont pleins de brigands. » « Des brigands, ça m'étonnerait, dit Nicolas, il y a longtemps qu'on ne voit plus sur les grandes routes. »« Si fait, ils coupent les oreilles des petits garçons. Moi qui vous en parle, j'en ai vu un autre jour qui s'en était fait une ceinture. Tenez, plus large encore que la mienne, » précisa-t-il, enveloppant d'un geste sa bedaine qu'il avait déjà passablement renflée. Nous éclatâmes de rire, mais nos yeux fouillaient les fourrés à 100 pas devant les chevaux. Dans la diligence, on se soucia apparemment peu des dangers de la route. Jean Hannon et le nommé Turlure avaient dû notifier leur état à leurs compagnons de voyage, car ils donnaient maintenant une aubade. Ils s'attachaient apparemment à l'illustration des mérites comparés de la voix de Basse-Condre et de celle de Ténor, avec un entrain sans doute proportionnel à l'épuisement de leur réserve de queute. « Eh bien, mes aïeux, j'ai mis le voiturier, voilà maintenant qu'on chante vêpres ma carriole, foutu métier !» Nous étions 14 petits chanteurs au rendez-vous, tous un peu perdus. À peine réunis, nous restâmes groupés comme moutons sous l'orage. Avec mes 11 ans et demi, j'étais parmi les aînés du groupe. Certains avaient 8 ans à peine. Il en venait de Liège, de Bruxelles, de Soigny, de Tournai. Un nommé Nicaise Houssard suit les présentations. Cet homme de petite mine était chargé de nous convoyer pour le grand voyage. Il était lui-même chanteur à la chapelle de Madrid, jadis enfant, recruté comme nous aux Pays-Bas. Cela nous rassura de voir qu'on pouvait rentrer d'Espagne sans bien porter, vouloir y retourner, et même, me glissa Nicolas à l'oreille, rester apparemment pourvu des nobles attributs dont la conservation nous avait causé tant de soucis. On fit les présentations. Il y avait parmi nous 2 Mathieu, 2 Philippe, mais surtout 4 Jean. Les choses n'allaient pas être simples. C'est ainsi que, dès cette époque, on prit l'habitude de nous appeler du nom de notre ville natale. Jean, quel Jean? Cousin, Hubert, Carrette ou Dufond? Il y eut donc Jean de Loncin comme Jean de Namur, et le nom nous resta. Je me trouvais en quelque sorte anobli, sans le vouloir, homonyme de ces comtes qui régnèrent jadis sur notre pays. On m'en blâma quelquefois, on m'en moqua souvent. J'en ris bien, car Dieu sait qu'il n'y a là nul orgueil. Si je m'étais trouvé parmi des Narcisses et des Philomènes, je serais resté Dufond et rien que cela. Le lendemain, on nous fit promener à Bruxelles, qui est ville riche et belle. Nous sommes fiers à Namur de notre hôtel de ville, de ses blasons aux armoiries de Philippe II et du comte de Berlaymont. Il est bien misérable au regard de celui de Bruxelles, où il tiendrait 10 fois, et dont le Saint-Michel doré dépasse de haut la pointe de notre citadelle. Devant la halle aux pins, on nous montra l'endroit précis où, 17 ans plus tôt, on avait décapité les comtes d'Egmont et de Horn. C'était le temps du tribunal du sang, où les vétérans espagnols et italiens coupaient les têtes en série. Notre guide, dont j'ai oublié le nom, nous en parlait comme de héros, semant quelques troubles en mon esprit. Je n'avais certes qu'une vague idée des guerres qui avaient précédé et suivi ma naissance, mais du moins une chose était-elle sûre pour moi, les gueux étaient des vilains, des rebelles à notre roi catholique et à notre mère l'Église, et on aurait dû les exterminer jusqu'au dernier. Ne t'en fais pas pour si peu, ces gens-là eux-mêmes ne s'en soucient guère. Tous les enfants de ceux qu'on a raccourcis naguère sont maintenant comme le cul et la chemise avec les Espagnols, et ils taillent en pièces ceux-là même pour qui leur père était mort. Effectivement, des années plus tard, j'allais connaître le troisième fils du comte Négmont, prénommé Charles. Il devait devenir gouverneur, souverain bailli et capitaine général du pays, comté et château de Namur. Plus haut dans la ville, on nous montra Notre-Dame du Sablon, où se trouve une belle statue de la Vierge, dorée à l'or fin. On raconte que c'est devant cette image, alors fort ruinée, qu'une petite fileuse de Flandre faisait chaque jour ses dévotions. La Vierge lui apparut et l'envoya à pied sur les chemins de son pays, sa statue sous le bras. La petite arriva chez le duc de Brabant, qui lui fit bon accueil. Il fit refaire et enrichir la statue que l'on vénère depuis dans cette église. C'en était trop pour des petites têtes comme les nôtres. Je rêvai la nuit suivante que le Saint-Michel du Beffroi me poursuivait de son épée, tandis que la petite fileuse l'encourageait à me couper la tête pour la couvrir d'or fin. Nous ne sommes pas restés longtemps à Bruxelles et bientôt eut lieu le vrai départ. Plus de diligence cette fois, mais un vrai cortège de voitures aux armes ducales. Il fallait bien cela pour transporter 14 petits chanteurs et presque autant de grandes personnes, chantres, accompagnants ou même gens de cour profitant de l'occasion pour passer par-de-ça. Car pour les gens d'Espagne, on se trouve par-delà ou par-de-ça selon qu'on est dans les possessions du roi aux Pays-Bas ou dans ses états de Castille ou d'Aragon. Nous traversâmes le Hainaut, la Flandre et l'Artois avec pour but le port de Calais où nous devions embarquer. Le voyage dura 5 jours. Nous logions dans des maisons religieuses avec pour dernière étape l'abbaye de Saint-Bertin dans la ville épiscopale de Saint-Omer. C'est là la dernière cité flamande avant la frontière de France. C'est en tant qu'île de notre origine, un brave chanoine m'interrogea sur la santé de monsieur de Wallon-Capelle, présentement évêque de Namur et, comme j'ai dit, originaire de cette ville. Je ne pus que répondre qu'il semblait bien se porter, aux dernières nouvelles du moins, lesquelles dataient de 8 jours. 8 jours déjà, il me semblait une éternité. Tout était découvert dans ces terres inconnues que l'on traversait, mais surtout auprès de ses nouveaux compagnons qui parlaient tous un patois différent, avec des accents chantants et traînaillants sur tous les tons de la gamme. « Vous avez de la chance de vous comprendre, nous avait dit Nicaise, vous parlez tous la même langue, ou à peu près. » La chose nous paraissait évidente. Il s'expliqua. « Avec la guerre, on n'ose plus recruter dans les chapelles du nord de la Flandre et du Brabant, mais d'habitude il y a autant de chanteurs de Gand, Bruges ou Anvers que de nos pays. » Et ces gens-là ne parlent pas comme nous. Bien sûr que non, ils parlent leur flamand, on y comprend en goutte. Ça promet, et en Espagne, que parle-t-on? L'espagnol, évidemment. Et nous allons devoir apprendre l'espagnol? Sûrement. Et aussi le latin? Et aussi le latin. Nous nous regardions avec inquiétude, cela promettait se farcir tous ces charabias, alors qu'il fallait déjà nous appliquer à pratiquer le bon français entre nous, à dépôt de comprendre nos patois respectifs. Nicaise prit l'habitude tout au long du voyage de nous désigner en espagnol tout ce que nous pouvions voir, des parties de nos personnes aux objets que nous avions avec nous, des voitures au beau soleil qui continuaient à briller sur notre route. Nous nous appliquions à retenir ces mots, à en glisser autant que nous pouvions dans nos phrases françaises, parlant ainsi un sabir haut en couleur et qui nous faisait bien rire. Pour le reste, on changeait de voiture à chaque arrêt et l'on pouvait ainsi parler avec un, avec l'autre. Des groupes se formaient par âge, par affinité. Notre histoire était souvent la même, celle d'enfants de familles pauvres venus à la musique un peu par hasard et envoûtés par elle, embarqués pour cette aventure étonnante sans en saisir encore toute la portée. La guerre avait de nouveau éclaté en France quelque temps auparavant. Certes, il n'était pas question de passer en Espagne par voie de terre, mais il fallait entrer dans le pays pour aller s'embarquer. Henri de Guise tenait fermement le nord du royaume, et ce prince était grand ami de notre roi, avec qui il avait conclu à la Saint-Sylvestre la Sainte Ligue offensive et perpétuelle. Nous fûmes donc accueillis fort civilement à la frontière des deux royaumes, voisine d'ailleurs de Calais. En fait, il y avait plus de soldats espagnols sur les routes françaises que sur les nôtres, à ce point que les chemins y étaient plus sûrs. Certes, les Pays-Bas du Sud étaient fidèles et pacifiés, mais il y traînait toujours une faune interlope de gens d'épée dont on ne pouvait savoir si elle marchait pour l'armée royale ou pour les rebelles. Eux-mêmes l'ignoraient sans doute, prêts à rallier celui que le sort de la guerre semblerait favoriser ou dont les écus tomberaient le plus à propos. Le monde était donc curieusement fait. Le roi d'Espagne n'était pas maître en ses états, qu'agitaient toujours les rebelles, mais ses armées se promenaient tranquillement au royaume voisin, dont le souverain restait terré à Paris. Nous ne risquons rien ici, avait annoncé Nicaise Houssart. Les gens de ce pays sont plus fidèles à notre roi que ne le sont les jésuites à Madrid. D'où vient cela? Ce sont pourtant pas ses sujets. Sont-ils donc si bons catholiques? Un catholique qu'ils le sont, sans doute, s'exclama-t-il, mais avec une escarcelle pour bénitier. Leurs princes reçoivent de notre roi tant de bel or qu'ils seraient fidèles à Mahomet si on leur demandait. Voyons, maître Houssart, intervint l'aumônier, ne perdez pas tout respect. Vous allez mettre de mauvaises idées dans la tête de ces enfants. Excusez-moi, mon père, mais je suis toujours mari de voir ces étrangers arrosés d'argent, alors que nous restons parfois un an sans toucher notre solde. Ces enfants verront tôt assez le cas qu'on fait de nous quand leur maître de chapelle devra prendre sur sa cassette pour les empêcher de mourir de faim. À Calais, nous n'entrâmes pas dans la ville, mais nous rendîmes directement au port. La mer, quelle découverte c'était pour nos yeux d'enfants, autrement marquante que toutes les tours des cathédrales du monde. La mer qui coupe la terre en deux, un monde de bruit et de senteurs puissantes, merveilleux et effrayant à la fois. Entre les pierres grises du port, elle paraissait bien sage, mais plus loin. Le port lui-même était un spectacle fascinant, le même sans doute dans tous les pays du monde. Déjà alors j'aimais observer mes semblables, et je serais resté des heures à regarder ce va-et-vient de voitures, d'hommes et de marchandises de toutes sortes. Dans cette fourmilière, les bateaux semblaient des géants d'une autre espèce, bien étrangers à cette agitation qu'ils toisaient avec une supériorité faite à la fois de dédain et d'indulgence. Ils restaient là, à quelques pas de la terre, prêts déjà à rejoindre un monde où les autres ne seraient plus rien. L'un d'eux, immense, dépassait tout ce que j'avais pu imaginer, moi qui n'avais jusque-là vu la mer et ses vaisseaux que sur de pauvres gravures. Ses voiles étaient tissées encore, mais des marins s'activaient à les descendre, courant sur les cordes et les mâts, à des hauteurs incroyables. La poupe plus haute que le portique d'une église était sculptée d'animaux fantastiques. Au sommet du grand mât, sous le pavillon, une longue oriflamme blanche et rouge serpentait sous le vent, balayant le ciel clair d'un trait interminable. Hélas, il nous fallut bientôt déchanter. Ce n'était point là notre navire que l'on trouva bien vite arrimé non loin de ce colosse. Point de proue sculptée, ni d'oriflamme, hélas, mais des airs de vétérans sales et fatigués, et deux mâts seulement qui, mis bout à bout, n'eussent pas égalé celui de son voisin. Les choses ne traînèrent pas, car manifestement, on nous avait attendus. On ne comptait pas patienter jusqu'à la marée suivante. Les marins aidèrent à charger les bagages, et on nous fit monter à bord sans ménagement. Nous n'avions pas encore eu le temps de prendre possession de nos paillasses que déjà on larguait les amarres. Au-delà du môle du port, le navire serpenta entre les bancs de sable, puis les grandes voiles tombèrent et se gonflèrent au vent, faisant grincer toutes les poutres. Sur le pont, un gros prêtre bénissait le bateau. À genoux, nous le regardions, sans entendre ses prières emportées par le vent, couvertes par les cris d'une nuée de grands oiseaux de mer. Dieu lui-même réussit-il à saisir son oraison? La mer était forte et devait le rester pendant toute la traversée. Nous voguions vers le sud et un vent puissant venait de l'océan, donnant au navire un roulis continuel. La disposition que l'on a pour la mer est inégalement répandue parmi les humains. Certains la supportent, d'autres non, hasard qui ne tient ni à la force, ni à l'âge, ni à l'habitude. La plupart d'entre nous furent malades dès le départ, errant comme des âmes en peine de la cale au pont ou du pont à la cale. Ils cherchaient un soulagement au grand air, mais vomissaient bien vite par-dessus la rambarde. Il devait alors se recoucher dans l'air vicié de l'intérieur. Nicolas semblait étranger à ses tourments, aussi à l'aise qu'un vieux loup de mer. Il riait, courait partout, les boucles noires au vent. C'était d'ailleurs la qualité première de mon ami, il se faisait à tout avec une facilité incroyable, aux arcanes de l'harmonie comme maintenant au péril de la mer. Il allait aussi apprendre espagnol en quelques semaines, quand nous y mettrions tous des mois, voire des années. Nous étions proches par les goûts, le hasard commun de la vie et la connivence qui en résultait, mais en réalité bien différent. Il avait le génie quand je n'avais que la facilité, car le peu de bel et bon que je pus faire dans ma vie, ce ne fut qu'à force de persévérance, souvent d'obstination. Pour ce qui est de la mer, j'étais, heureusement, plutôt bien disposé, et si le navire était trop secoué, quelques profondes inspirations me suffisaient pour dissiper la nausée. Nous en profitions pour nous pencher à l'avant du navire, dont l'étrave fendait l'écume, nous rapprochant à chaque instant d'un avenir que nous essayions d'imaginer dans des conversations sans fin. Nous avions toute licence de promener à notre guise. Aucun de nos argousins n'était en état de nous suivre à la trace. Nous dormions peu. Il était plus excitant d'observer les étoiles, les feux que l'on devinait parfois sur les côtes de Normandie ou de Bretagne, que de nous retourner sur une paillasse puante dans les gémissements et le grouillement des rats. Nous nous étions d'ailleurs plaints à l'aumônier de ce voisinage peu catholique. « Détrompez-vous, mon fils, avait-il répondu. Ceci, au contraire, devrait vous rassurer. Cette proximité est la preuve que notre navire est solide, car ce rongeur est plus clairvoyant que l'homme, et il quitte toujours le bâtiment promis au naufrage. » Et encore, les rats n'étaient pas les êtres vivants les plus effrayants à bord. Plus sales qu'eux, plus vicieux aussi, il y avait les marins. C'est un paradoxe. Tout ce que la terre produit de plus vil, on le retrouve en mer, non seulement enchaîné au banc des rameurs, mais aussi embarqué au rang des matelots. C'est que la marine consomme tant de vie humaine qu'elle ne peut se montrer trop regardante quant au recrutement. Tel qui, voleur ou assassin, ne peut espérer sur terre de fin plus glorieuse que le jeu de balançoire au bout de la corde du gibet, souvent se voit offrir en mer une nouvelle carrière. Il sera toujours assez bon et vertueux pour aller se faire embrocher par les Turcs ou dévorer par les poissons. Ces bêtes privées de femelles nous observaient avec des regards en dessous, nous approchaient parfois avec des sourires édentés, tentaient de nous toucher. On nous avait mis en garde. Le maître d'équipage lui-même en avait calmé l'un ou l'autre d'un coup de fouet bien ajusté, comme au jour où Nicolas s'était, à grands cris, défendu d'un marin plus entreprenant, atterré sans doute par son teint clair et ses cheveux de fille. Mon ami ne s'en était pas effrayé, l'invectivant d'une curieuse apostrophe « Bas les pattes, sale fouilleur de terre jaune !» L'homme, heureusement, n'avait rien compris à ce langage, moi évidemment non plus, pour d'autres raisons, et aujourd'hui encore je reste perplexe à l'idée qu'un gamin de 11 ans ait pu tenir un tel propos. Que n'avait-il pas dû entendre avant d'arriver à Saint-Aubin? Il nous arriva en mer un grand malheur dont je crains qu'il ne soit en rapport avec ces événements. Il tient un peu de mots, l'un de nous disparut. On s'aperçut un matin qu'il nous manquait l'un des plus jeunes, un garçonnet blond et timide dont j'ai oublié le nom. On ne sut pas exactement quand cela se passa, encore moins comment. L'enquête ne donna rien. On nous interrogea bien sûr, mais on feignit d'ignorer les soupçons que nous portions sur les hommes d'équipage. Notre compagnon n'était plus sur le navire, il était donc à la mer, qu'il y soit tombé ou qu'on l'y ait jeté après je ne sais quelle avanie. L'aumônier, toujours en proie au mal de mer, expédia plutôt qu'il ne dit la messe des défunts. Sur le pont, l'atmosphère était lourde, les marins à l'écart gardaient la tête baissée sous l'œil inquisiteur du capitaine. Ne cherchait-il pas à surprendre l'indice d'un regard, l'aveu d'un maintien? Ce petit chanteur n'eut même pas les honneurs d'un cantique. Il était mort sans que le sachent au pays les parents, les amis et la petite sœur qu'il avait sans doute laissée. Les choses commençaient mal pour les petits chanteurs flamands du roi d'Espagne. Nous débarquâmes dans la ville de Santander, où se trouve un grand port et une belle cathédrale, mais nous ne devions pas y rester plus d'une nuit. Le pays d'Espagne est singulier pour le voyageur, et mon premier passage par-deçà me frappa par des curiosités qu'on ne connaît guère chez nous. Ainsi, quand nous fûmes descendus sur le quai, qui nous semblait comme le navire encore se mouvoir sous nos pieds, nul ne sentit de qui nous étions, ni d'où nous allions. Seulement, un homme sévère, qu'on nous dit être un commissaire de l'Inquisition, va nous demander si nous ne détenions pas quelque ouvrage condamné par le Saint-Office. Comme nous venions de Flandre, pays toujours suspect et sentant fort le fagot, il fouilla nos bagages par le détail, ce qui lui prit sûrement 2 heures. Il n'y trouva nulle œuvre hérétique. En fait de papier imprimé, je n'avais pour bien que quelques partitions dont m'avait fait don le curé Renson et dont les titres Magnificat ou Gloria ne pouvaient que l'assurer de ma jeune orthodoxie. Pour sa peine, le commissaire se fit payer une obole qu'on appelle droit d'inquisition. En fait, la première douane royale ne se trouve qu'au sortir des montagnes de Vasconie, là où commence le royaume de Castille. L'Espagne est toujours divisée en divers royaumes, et si ces sortes de provinces doivent l'obéissance au seul roi, elles conservent ce qu'on appelle là-bas les fueros, privilèges parfois incommodes pour le voyageur. Ainsi, entre les royaumes existent des ports secs, passages obligés où il y a douane et garde. On ne peut y entrer ni en sortir sans faire enregistrer ses hardes, marchandises et argent, sous peine d'être sévèrement puni et de payer une seconde fois pour tout ce qui est un peu neuf. À la province de Castille, les gabelous nous firent remettre notre passeport et tournèrent autour de nous, nous comptant et recomptant, avec l'air de nous prendre pour de grands criminels. Niquet Soussard ne semblait pas effrayé par ces manœuvres, sans doute habituelles. « Dites-lui que nous venons pour le service du roi, » lui souffla l'un de nous, « il devrait nous laisser passer. » Houssart n'en fit rien, mais quand les douaniers, en poussant des grands cris, se mirent en devoir d'ouvrir tous les coffres et valises pour en inventorier le contenu, il s'approcha discrètement et glissa quelques pièces à l'officier. Comme par enchantement, le passage fut libéré, et ces gens nous firent passer avec des transports d'amitié pour s'abattre comme une nuée de corbeaux sur d'autres voyageurs qui approchaient. Houssart souriait, bonhomme. Dans notre innocence, nous étions, quant à nous, révoltés par de tels procédés. « Que voulez-vous? C'est toujours ainsi, » expliqua-t-il résigné. « Il faut se soumettre à ces harpies. Mais ce sont les gardes du roi, il ne peut laisser faire cela. » « Sans doute, mais le roi perçoit l'essentiel de son revenu, des droits que laisse cette canaille, alors il les laisse voler un peu pour mieux voir le reste. »« N'empêche, ce n'est pas chrétien. »« C'est vrai aussi, et tu ne crois pas si bien dire, ces gens qui lèvent les impôts sont presque tous des juifs portugais qui se font passer pour chrétiens. Et quand ils ont bien volé, qu'ils sont bien gras d'or et d'argent, l'Inquisition les fait prendre et périr à petit feu. Pourquoi? Parce qu'ils sont juifs ou parce qu'ils sont voleurs? Apparemment, parce qu'ils feignent d'être convertis et blasphèment en secret le nom de Jésus. Mais on en profite pour leur faire rendre gorge et leur confisquer tous leurs biens. Ils payent ainsi toutes les injustices qu'ils ont faites au roi comme aux voyageurs et tout le monde est content. On ne voyage pas à cheval dans ce pays. On ne trouve guère de ces animaux sur les routes, sinon pour la poste royale, et ce, bien qu'il y ait partout abondance de relais de poste. Nous étions donc à dos de mulets, à deux par bête, et contraints de faire à pied une grande partie du chemin pour ne pas la fatiguer. C'était là le sort commun des voyageurs, dont on voyait d'ailleurs grand nombre, et qui semblait ignorer l'usage de la malle de poste ou de la diligence. C'est avec émotion que je repense à cet équipé, à notre longue file sur la route poussiéreuse, à notre détresse aussi, car ce pays désolé nous faisait peur. Rien n'est plus saisissant, quand on a quitté les vertes plaines de nos pays, que de traverser ces roches découpées sur le ciel de feu, ces plateaux pelés où ne pousse pas un arbre digne de ce nom. Point de vache non plus en Castille, nul de ces paisibles bestiaux qui font l'agrément de nos campagnes, mais des moutons qui seuls trouvent à brouter dans l'herbe rare et les bosquets épineux. Les plaines elles-mêmes ne sont pas cultivées, sinon alentour des villes et des villages. J'allais découvrir plus tard que la nature avait rejeté sur le pourtour du pays, du côté de Grenade ou de Valence, ses parties les plus fertiles et les plus agréables. Je devais apprendre aussi que l'Espagnol est trop orgueilleux ou trop indolent pour travailler la terre et que ces régions ne doivent leur prospérité qu'à l'industrie des morisques qui s'y trouvent. Mais ceci est une autre histoire. En fait de ville, nous ne devions vraiment traverser que Burgos vers la moitié de notre voyage. Cette ancienne capitale de la Castille est fière de son immense cathédrale. J'en garde surtout le souvenir d'un interminable chemin montant et balayé d'un vent glacial, chose d'autant plus singulière que nous étions alors en juin et que nous avions jusque-là plutôt souffert de chaleur que de froidure. C'est normal, assure Aniquès, l'été ne dure à Burgos que de Saint-Jacques à Sainte-Anne. Et qu'en fait-on Saint-Jacques? Santiago, le 25 juillet, et Sainte-Anne, Anna, le 26 juillet. Au premier jour de notre longue marche vers Madrid, nous nous étions demandé quel logement on avait prévu pour nous. C'est qu'il y avait apparemment peu de villes sur la route, et les misérables bourgades que nous rencontrions, de loin en loin, ne semblaient guère pourvues de ces maisons religieuses qui nous avaient accueillis aux Pays-Bas. « Nous passerons la nuit à l'auberge », avait annoncé Niquet Soussard, ce qui nous avait réjouis. Quelle fête! Nul d'entre nous n'avait de sa vie logé dans une auberge. Nous allions donc mener la vie de ces riches voyageurs, et nous nous imaginions à l'étape fourbue, les pieds tendus vers un grand feu où grésirait la volaille, tandis que les servants s'empresseraient à rafraîchir les petits chanteurs du roi que nous étions. Houssart laissait ainsi vagabonder notre imagination, ce qui nous semblait de bon augure. Dans le courant de l'après-midi, au plus chaud de la journée, nous nous étonnâmes de le voir s'inquiéter de nourriture. Dans un village, il tambourina ainsi à la porte d'un boulanger, qu'il ne quitta qu'après l'avoir dévalisé de ses pains. Plus tard, c'est avec des chasseurs sur le bord du chemin qu'il marchanda quelques gibiers à plumes et à poils. C'est que, nous expliqua-t-il, dans les auberges d'Espagne, on ne peut trouver que ce qu'on apporte soi-même. C'était là une nouvelle curiosité du pays qui allait, hélas, me devenir bien familière. Les hôtelleries ne donnent pas, comme chez nous, le couvert et le gîte. Il faut y apporter ce qu'on veut manger et donc penser à faire provision sur la route en gonflant ses besaces des choses nécessaires. Certes, on peut les faire quérir par le valet de l'auberge, mais c'est courir le risque de se faire spolier et de ne manger que fort peu de choses pour beaucoup d'argent. La raison de cette pratique est que tout ce qui se mange ou se boit est frappé d'un impôt qui n'est à fermer dans chaque jour qu'à un seul traitant. Défense donc est faite à quiconque de vendre des vivres s'il n'en a acheté le droit. Mais ce désagrément n'était encore rien au regard de ce qui nous attendait, et je n'ai jamais oublié le saisissement qui fut mien quand nous pénétrâmes dans cette première auberge où nous devions passer la nuit. À vrai dire, il y avait là de quoi couper court aux plus forts appétits. L'aubergiste ressemblait à un gueux, 10 fois plus crotté que nos mulets qui avaient traîné tout le jour dans la poussière des chemins. Et quant à nos rêves de confort, nous pouvions les oublier. Point d'âtre hospitalier en ce lieu, mais un feu rond au milieu de la salle qui l'emplissait d'une âcre fumée, comme si le voyageur était quelque animal sauvage qu'il fallait chasser de son antre. Et partout une saleté incroyable, innommable, jusque sur la table commune où chacun dut bien dévorer ses provisions. Même le vin, dont on nous servit une modeste mesure allongée d'eau, sentait à pleine gorge la peau du bouc dont on l'avait tiré. Car c'est aussi une singularité de ce pays que de produire le meilleur vin et de le laisser gâter à défaut d'user de tonneaux pour le garder. Le sommeil nous terrassa heureusement sans nous laisser le loisir de trop penser à notre infortune, ni d'ailleurs à la misère des paillasses où l'on nous entassa, propre si l'on peut dire, à faire regretter à quiconque d'un peu sensé la paille de l'écurie. Insouciance de l'enfance, nous dormîmes paisiblement, sans nous tracasser des ronflements qui secouaient l'auberge, ni encore, hélas, des bestioles qui firent toute la nuit bombance de notre chair rose et fraîche. Une cuisante surprise nous attendait au réveil. Je pensais m'être couché entre Nicolas et Mathieu. Au matin, ce ne fut pas eux que je découvris près de moi, mais des inconnus, d'âge et de tournure comparable, certes, mais au visage rouge et boursouflé. Il me fallut un certain temps pour reconnaître sous ce masque mes compagnons de la veille. J'éclatai de rire. « Non, mais vous avez vu votre tronche? Tu peux causer, tu as vu la tienne ?» Évidemment, il n'y avait aucune raison pour que j'eusse échappé au désastre. Puce et punaise semblaient s'être donné rendez-vous de tous les coins de Castille et d'Aragon pour défiler en nos paillasses, et nous ne pensions pas pouvoir trouver sur tout le corps un endroit où il resta place pour une autre piqûre. Ce en quoi nous nous trompions d'ailleurs, car les étapes suivantes allaient se révéler peuplées d'insectes inventifs qui s'ingénieraient à découvrir sur les petits chanteurs de Sa Majesté des terrains de chasse encore vierges. Nous quittâmes en tout cas sans regret cet établissement qu'en ce pays on nomme une venta, non sans avoir fait inventaire de notre équipage. Si la dépense y est modeste, car réglée par ordonnance du roi, les aubergistes ont coutume d'en arrondir le montant au détriment des bagages des voyageurs. Il ne manquait rien et nous reprîmes la route avec peu d'enthousiasme. Pour la première fois depuis le départ de cette expédition, la nostalgie nous saisit. Qu'était-ce donc que cette contrée misérable, ces montagnes désolées où tous les hommes avaient l'air de bandits? Déjà, le pays natal semblait un paradis perdu. Les guerres et les malheurs que nous avions tous connus, peu ou prou, étaient bien oubliés, tant il est vrai qu'aux yeux du souvenir, le passé enfoui semble toujours meilleur qu'il ne fut. Nous en gardions les images en tête, le souvenir de nos proches aussi, parents, frères et sœurs, avec d'autant plus de tristesse que nous n'avions nulle espérance, nul moyen de retour. Plus d'un enfant pleura sur ces chemins de Castille. On se prenait à rêver, à échafauder en vains propos des projets de fuite impossible, d'embarquement clandestin, de retour radieux à la maison natale, d'embrassade d'une mère qui savait, elle, que son petit garçon reviendrait. C'est au cours de ces interminables journées que je fis mieux connaissance de Mathieu Romarin, qui avait le même âge que Nicolas et moi. Il chantait à Liège, mais sa famille vivait loin de cette ville, en une terre principautaire perdue à 10 lieues au sud de Namur. C'est qu'en certains endroits, les terres des deux États sont si mêlées qu'on craint toujours, en pissant, d'arroser le pays voisin. Nous parlions longuement de nos rêves éveillés de paradis perdu. Il me racontait son pays, une campagne vallonnée, boisée, une rivière, des moulins à eau, des forges. Mes parents sont maîtres de forge, et chez nous, il y a tout ce qu'il faut, bois à suffisance pour chauffer le fourneau, les mines de fer, l'eau pour le travailler. J'évoquais Namur, l'image dernière que j'en avais gardée en montant la route de Bruxelles, mais ils ne m'écoutaient que par politesse. En fait, chacun n'écoutait l'autre que pour trouver matière à éveiller en soi de nouveaux souvenirs. Le meilleur moment, vois-tu, c'est le soir, quand le marteau de la forge arrête de frapper, il y a un drôle de silence. Les gens se reposent sur le seuil de leur maison et boivent une chopine. Il vient plein de bruits nouveaux qu'on n'entendait pas de la journée, le cri des oiseaux, le glouglou de la rivière, et on voit la fumée au-dessus des maisons qui monte à travers les arbres. Point de glouglou sur ces routes brûlées, point d'arbres jusqu'ici, mais des buissons rabougris et peu d'oiseaux, sinon de grands volatiles fort peu sympathiques, qui nous semblaient attendre le moment où l'on jetterait au fossé l'un de nous, mort de soif ou de désespoir. Le lecteur rira sans doute à cette image et prétendra qu'on nous aurait du moins donné une sépulture chrétienne en cette extrémité, d'ailleurs bien improbable, où l'un de nous serait venu à périr du côté du Burgos ou d'Aranda. Il n'aura certes pas tort, mais du moins comprendra-t-il à ses propos le triste état d'esprit où nous nous trouvions. Je ne sais plus combien de jours nous passâmes à ce pénible voyage, une dizaine sans doute, puisqu'on compte environ 100 lieues du port de Santander à la capitale du royaume. Toutes choses ont une fin, les petits pas ont raison des plus longues routes, les heures accumulées mènent au terme d'intervalles de temps qui semblaient éternités. Je dois cependant la vérité de préciser que l'approche de Madrid avait un peu changé nos dispositions d'esprit. Nous avions déjà longé en nos dernières étapes des lacs assez plaisants, la région était boisée, le faubourg que nous avions à traverser avant d'entrer en ville était franchement riant, bâti de couvents et de riches demeures semées de vastes jardins. Il était surtout orné de fontaines, donnant à profusion une eau excellente, 1000 fois meilleure que la Saumure dont nous avions dû parfois nous abreuver. Nous leur rendîmes des honneurs mérités, arrêtant à tout bout de champ notre lente caravane. Si les routes jusqu'ici avaient été passablement peuplées, elles devenaient de plus en plus encombrées à mesure qu'on approchait de Madrid, pour n'être plus aux abords de l'ancienne Puerta del Sol qu'une interminable file de bêtes de somme chargées de denrées et de troupeaux en désordre. C'est qu'il n'y a ici, nous expliqua-t-on, nulle rivière assez forte pour porter bateau, qu'on n'y fait guère usage de charrettes, et que donc tout l'approvisionnement de la ville se fait sur des ânes et des mules. Singulier pays, décidément. N'ayant avec nous nulle marchandise à déclarer à l'octroi, nous nous frayâmes donc un chemin dans ce grouillement, nous attirant çà et là des chevriers portefaix, des invectives fleuries sans doute, mais qu'heureusement nous ne comprenions pas encore. Une fois passée la porte dite du soleil, imposante mais ruinée, à l'image du rempart qu'elle ornait, la ville nous apparut vraiment. La capitale de cet immense royaume nous sembla, à vrai dire, bien modeste. Et il était en effet au regard d'autres villes d'Espagne et même des Pays-Bas. C'est que ce titre même de capitale était bien neuf. Madrid ne le devait qu'au curieux vouloir du souverain régnant, notre roi Philippe II, et encore ne l'avait-elle reçu que 13 ans avant ma naissance. 13 et 11 font 24 années, ce qui suffit sans doute à faire un homme, mais pas une grande cité. Néanmoins, la cour avait, en peu de temps, amené grand monde à Madrid, et du temps que j'y vécus, je la vis encore croître grandement, dépasser partout l'ancienne muraille et faire éclater ses portes. Nous dévorions tout des yeux, avec la curiosité qu'on peut avoir à cet âge et n'ayant eu de longtemps rien à voir. Nous étions frappés par la pauvreté des maisons faites de torchis et de briques, par leur petitesse aussi. À l'exception de la grand'rue, toute la ville, jusqu'en son centre, semblait ignorer la possibilité de construire en hauteur, et, du haut de nos mules, nous arrivions à hauteur des toits. Comment se fait-il que ces Espagnols ne fassent pas d'étage à leur maison? Demanda-t-on. Ils occupent 3 fois plus de pays. C'est vrai, observai-je, si on faisait ainsi à Namur, les collines d'alentour seraient couvertes de maisons, ce serait bien vilain. À mon avis, estima Nicolas, leurs architectes sont des incapables, ou alors ils n'ont point de menuisier qui sache construire des escaliers. Houssart éclata de rire. Vous n'y êtes pas, la raison est tout autre. Quand le roi a décidé d'établir à Madrid sa capitale, il a prescrit que les propriétaires de maisons de plus d'un étage seraient tenus d'en garder une partie pour loger les gens de sa cour et de son gouvernement. Les Madrilènes sont gens rusés, comme vous l'allez vite comprendre. Ils n'ont depuis construit une seule grande maison. J'appris par la suite qu'à cette raison peu avouable s'en ajoutait une autre plus noble, on ne voulait pas offenser Dieu en bâtissant plus haut que les murs des couvents. À y bien observer, beaucoup construisaient néanmoins un étage, mais pourvu d'une fenêtre tellement petite que les fonctionnaires du fisc pouvaient croire seulement la maison un peu haute de plafond, pourvu qu'on les aidât un peu. C'est ce qu'on appelle la maison des malices, casa de malicia. Si cette bassesse des murs frappait la vue, une autre particularité touchait plus encore un autre de nos sens, la puanteur insupportable qui montait à nos narines, conséquence d'une saleté partout présente. La principale avenue de la cité ressemblait à un égout et nul ne semblait s'en soucier le moins du monde, piétinant allègrement dans les ruisseaux d'ordures et les étrons frais, comme s'il se fût agi de pétales de rose. « Voilà le palais !» s'écria notre guide alors que nous arrivions au bout de cette avenue, la pulente Calle Mayor. C'était bien le palais royal, ce fameux Alcazar, centre d'un empire qui s'étend sur le monde, de nos plaines flamandes au pays des Incas, de la Californie aux îles Philippines, car on peut faire tourner en tous sens le globe terrestre, en quelque endroit qu'il s'arrête, on trouvera quelque pays donné voici moins d'un siècle à Charles Quint par Cortés, Pizarre ou Magellan. Construite sur le rebord du plateau qui domine la rivière Manzanares, la résidence de Philippe II n'a rien qui puisse la faire passer pour le centre du monde. L'Alcazar est une forteresse assez quelconque, un vaste rectangle flanqué de quatre tours dissemblables. Elle surplombe un profond talus qui descend jusqu'à la rivière, près de 200 pieds plus bas, et jusqu'à la grande route qui va de Tolède à la province d'Aragon. Ce talus boisé est semé des ruines d'antiques fortifications. La façade de l'Alcazar est certes faite de pierre, avec des balcons et ornements de marbre qui lui donnent quelque grandeur, mais le reste du palais n'est guère avenant. Assemblage assez disparate de briques et même de torchis pour les bâtiments qui prolongent l'arrière du palais comme accrochés au ravin. Nous devions avoir l'air un peu déçus, car Niquet Soussard crut bon de préciser « Regardez-moi les fines bouches, ça vient de sa cambrousse, ça n'a jamais rien vu, et ça fait difficile devant le palais qu'a choisi le plus grand roi du monde. » Sachez, messieurs, que même le roi de France a vécu ici quand l'empereur Charles l'a emprisonné. Grâce au ciel, nous n'étions pas prisonniers, et on nous attendait, du moins le supposions-nous. C'est en tout cas là que s'achevait notre périple, c'est là qu'allait commencer notre nouvelle vie. J'ai dit, je crois, que Philippe II n'était point à Madrid, ni même en Castille, au temps de notre arrivée par Deçà. Il mariait sa fille cadette, l'infante Doña Catalina, au duc Charles-Emmanuel de Savoie. Ce prince était, disait-on, vilain et bossu, mais grand ami du royaume, ce qui n'était pas courant en ce temps. Cette expédition avait vidé le palais d'une bonne part de ses gens, ministres et courtisans, et avait de la même façon conduit aussi sans diable tout ce que sa majesté compte de chanteurs et musiciens. À vrai dire, il était heureux qu'on nous eût signalé que l'Alcazar était morne et désert, car ce n'était pas précisément l'impression première qu'il nous avait laissée, tant il nous semblait grouillé de gens s'agitant en tous sens. La chose était pourtant vraie, même s'il allait falloir attendre quelques mois encore pour nous en rendre compte. C'est qu'on a peine à imaginer ce que peut être la vie de cette cour qui fait de Madrid la Babylone de ce temps et l'émerveillement des nations. Quant à l'absence de la chapelle musicale, elle était pour nous plus concrète. Je m'attendais un peu à revivre ici ce que j'avais connu à Saint-Aubin quelques années auparavant, l'accueil espiègle de nouveaux camarades, d'une belle et bonne machine qui allait régler ma vie nouvelle. Mais il fallait nous rendre à l'évidence, nous étions bien ici les seuls petits chanteurs, comme nos aimés, Turlure, Nicolas Hanon et quelques compères étaient les seuls chantres. Nous étions cependant attendus, sinon par l'agent musical, du moins par quelques personnages. Personnages heureux, sinon de nous voir, du moins de trouver en nous quelques matières à l'exercice de leur haute fonction. J'ai nommé le fourrier de la chapelle, espagnol bontain du nom de Juan de la Huerta, notre futur maître de latin, Nicolas Bablincourt, un français curieusement égaré à la cour du plus intime ennemi de son souverain, et quelques aumôniers, espèces dont j'allais pouvoir admirer l'étonnante prolifération en ces climats. Le sire de la Huerta nous accueillit dans les bâtiments réservés à la chapelle flamande, modestes annexes construites dans le prolongement du palais. Elle comportait quatre salles, respectivement propres à étudier, dormir, manger et jouer, activités qui devaient, en ordre décroissant d'importance, composer notre quotidien. Si les lieux ne payaient pas de mine, nous allions vite en apprécier la commodité. Leur éloignement même en faisait un petit monde, préservé du mouvement du palais, tout voisin des pentes arborées descendant à la rivière. Le digne hidalgo qui nous les fit visiter nous remit le couchage ainsi que nos vêtements, la ropilla, pourpoint de velours pour moitié blanc et noir, et la loba, soutane de laine, ornée d'un ruban de soie large de deux doigts, l'un et l'autre assez somptueux à nos yeux d'enfant. On y ajouta un manteau de voyage et deux chapeaux, dont ce couvre-chef de feutre frangé qui serait notre ordinaire. Il commenta ensuite, en langue castillane, l'orden que soit de gardar en la casa de la catorcios de la capelle real del rey nuestro señor, la règle qu'il faut observer dans la maison des petits chanteurs de la chapelle du roi notre seigneur. Il prononçait à tout moment le mot de niños, que nous allions bien connaître et entendre à tout propos. Les niños, ce sont les petits garçons, à savoir nos personnes. Pour le reste, nous ne comprenions pas un traître mot de ce qu'il disait, en dépit des exercices linguistiques qui avaient agrémenté ces quelques semaines de voyage, et pour comble de malheur, Nicaise nous avait pour l'heure abandonné à notre sort. Seul parmi nous, Nicolas semblait saisir quelque sens à ses propos. Il dit que la messe est chantée à 8 heures en été et à 9 en hiver. Je crois qu'après vêpres nous serons libres, mais nous devrons mettre ce temps à profit pour nos exercices personnels. Quels exercices? Des exercices à chanter? Je ne sais pas. En tout cas, nous serons enfermés après le dîner. Nous ne pouvions évidemment vérifier les intuitions philologiques de mon ami. À vrai dire, il aurait pu nous assurer que ces ropillas et lobas avaient jadis appartenu à l'évêque de Salamanque sans que nous y trouvions à redire. La vérité historique m'oblige cependant à dire que ces commentaires paraissaient fondés et qu'il sembla même s'attirer par cette disposition les bonnes grâces du fourrier. Nicolas Bablincourt était homme de langue bien pendue, comme tous ceux de sa nation, mais du moins avions-nous le plaisir de le comprendre sans l'aléatoire truchement de Nicolas. Assez jeune encore, le cheveu noir raréfié sur le devant, mais d'ondulante abondance sur le reste du chef, il se lançait dans des proses sans fin, dans des périodes bien balancées, dont il sortait généralement avec bonheur, et où tout autre que lui sans doute se serait empêtré. Il soulignait son discours d'un geste généreux, d'une main torturée, retournant presque le pouce jusqu'au dos de la main dans les moments de plus intense persuasion. Je me suis souvent demandé si cette curieuse disposition lui était naturelle ou si elle était venue peu à peu de la pratique oratoire. Quoi qu'il en soit, nous le surnommâmes Blabla pour apprendre l'année suivante que nous n'avions pas fait là preuve d'originalité. C'était en effet là le cognomène dont l'avaient gratifié les générations antérieures de la chapelle flamande. « C'est un bavard !» me glissa plus tard Oussa à l'oreille. « Il n'a plus personne à qui parler français depuis des mois. Il faut bien qu'il se rattrape. » Il se rattrapait en effet, nous vantant les éminents mérites de la langue latine, et l'on devinait à cette truculence, comme à certains regards lancés au fourrier espagnol, qu'il n'était pas contraire à sa fierté, ni malvenu pour son statut, qu'il fût personnellement chargé de nous l'enseigner. Nous allions apprendre par la suite qu'il était aussi musicien, mais que le poste d'organiste qu'il convoitait lui avait été refusé. Était-il moins virtuose des doigts que de la langue, ou bien son extraction française l'avait-elle desservi? Toujours est-il qu'il avait alors sollicité et obtenu ce poste de maître de latin une bonne dizaine d'années auparavant. Comme notre formation musicale ne pouvait, faute de maître et de vice-maître, être relancée avec la célérité voulue, nous eûmes par un sage principe des vases communicants la compensation d'une surabondante instruction au latin. Je ne m'en plaignais pas, j'eus d'emblée grande inclination pour cette langue qui me semblait sonner et donner à la mienne une clarté nouvelle. J'étais donc ainsi le premier de ma famille à pratiquer le langage savant, car si mon père connaissait par cœur les réponses de tous les offices, il les annonnait sans comprendre comme il l'eût fait de l'hébreu ou du sarrasin. Il y avait donc sans doute, Dieu m'en pardonne, quelques pointes d'orgueil dans mon goût du latin. Quant aux aumôniers, ils étaient tous originaires des Pays-Bas, nous entretenant donc en français, voire pour certains dans ce langage des provinces du Nord, dont je ne savais, ni d'ailleurs toujours ne sais goutte. Géry de Gersem, seul d'entre nous dont ce fut la langue maternelle, l'entendit parler avec grande joie. Nous savions que seuls les hasards de la guerre avaient privé notre groupe de ces garçons de Bruges, Gand ou Anvers, dont les chapelles ont grand renom et qui parlent cette langue si différente de la nôtre. nous apprîmes aussi que ces prêtres étaient pour la plupart eux-mêmes d'anciens chantres jadis amenés comme nous en Espagne. C'était là une première réponse à la question que chacun sans doute en secret se posait sur la suite de sa carrière en ce pays. Certes, quand on a 10 ans, le terme d'un lustre semble un avenir lointain, presque imaginaire. J'étais cependant assez sensible à ce futur, en ce que j'y voyais 2 échéances capitales, le jour de la mue, fatal à la carrière du petit chanteur, et celui tant espéré déjà du retour chez moi et les miens. La vie à la chapelle du roi d'Espagne ne semblait donc guère devoir différer de ce que j'avais connu à celle de l'évêque de Namur, à ceci près qu'on s'y levait plus tard. Les premiers mois me laissent peu de souvenirs. Après les désordres des premiers temps, elle devait suivre le rythme immuable de la Orden que sea de guardar. Messe chantée le matin, petit déjeuner, leçon de musique jusqu'à midi, leçon de grammaire et de latin après le repas, vêpres à 3 heures, exercice personnel et délassement jusqu'au soir. Par contre, la découverte de ce pays nouveau me marqua profondément. Nous avions droit le dimanche à une promenade en ville sous la conduite de l'un ou l'autre aumônier. Ensuite, au retour de la cour, nous serions plutôt accompagnés d'un modérator, nom donné aux surveillants de la chapelle, deux braves bougres flamands comme nous, répondant au nom fleuri de Gaspard Brebos et Horace Fabry. Le premier, toutefois, ne devait pas rester toute sa vie dans ce modeste emploi. Il était un pur organiste, mais surtout habile de ses mains, tant et si bien qu'il s'intéressa à la mécanique de l'orgue et y devint bientôt de première force. Il délaissa progressivement sa tâche à la chapelle pour réparer et embellir ses instruments à Madrid, puis dans toute l'Espagne. C'était tantôt des tuyaux à remplacer ou des jeux à installer à Tolède, tantôt un instrument neuf à monter à Saragosse. Il allait ainsi beaucoup voyager, ne manquant pas une occasion d'emmener avec lui son ami Fabry. Il en vécut fort bien tout le temps que je restais en Espagne. Madrid est un continuel et vivant paradoxe, ville laide et sale, cultivant la splendeur, cité provinciale devenue du jour au lendemain et par la seule volonté d'un roi, capitale d'un empire. Madrid a grandi trop vite, elle a fait éclater ses vieux remparts pour se répandre anarchiquement dans la campagne. Partout, cela grouille de monde, jusqu'au cours intérieur du palais royal, où la foule se presse tout le jour parmi les boutiques et les marchands ambulants. Ce qui frappe le plus, c'est encore la saleté et l'incroyable puanteur de la ville. Comme elle n'est traversée d'aucune rivière, le Manzanares n'étant qu'un filet d'eau coulant à l'écart, tous les détritus prennent le chemin de la rue où ils restent à pourrir, formant boue en été et poussière en hiver. « Combien compte-t-on d'habitants à Madrid ? » demanda un jour Mathieu Romarin, qui avait toujours un grand sens pratique. « 100 000 à tout le moins, » répondit Brebos. « 100 000 ! » Cela fait donc 100 000 livres d'étron dont on parfume les rues chaque jour que Dieu fait. Un beau paquet que le soleil change en poudre et belle et fine poussière qui vole partout, renchérit Nicolas faisant mine de frotter son habit neuf. Bref, ce qu'on chie en hiver, on le boit en été. Avaler la merde sous forme de poussière, cela n'est rien encore et reste fort digeste. Plus grave est d'en attraper un vase sur la tête, comme cela m'est arrivé, affirma le même Brebos que je crus volontiers. Horace Fabry taquina son collègue. « Mon cher Gaspard, vous n'ignorez pas que la vidange est interdite avant 10 heures en hiver et 11 en été. Que faisiez-vous donc par les rues à une heure pareille? N'étiez-vous pas encore à faire le galant sous la fenêtre de quelque belle ?»« Maître Brebos, si on vous le demande, répondez que vous n'en savez rien, vous ne serez pas loin de la vérité. » Car c'était là un des grands soucis des madrilènes, dont les maisons n'ont pas de fosse d'aisance, que de se débarrasser de ces effets par lesquels l'homme se distingue le moins de l'animal. En nos contrées, encore peut-on tirer grand profit pour l'engraissement du potager, mais ces gens sont fiers et croiraient déchoir en cultivant la terre, davantage encore en la traitant de la sorte. D'où vient sans doute qu'ils préfèrent se jeter le bras à la tête et qu'une des premières phrases qu'il faut connaître en ce pays est « Aguava, attention à l'eau !» C'est là mise en garde à l'adresse du passant, et l'usage est donc de brailler, avant d'expédier des fenêtres et balcons, le contenu des pots de chambre. Les alcades ont réglementé la chose, tant en ce qui regarde l'horaire que la hauteur de projection, mais bien qu'on ait vu des propriétaires bannis et des domestiques fouettés pour avoir négligé les édits, la pratique reste courante et incite le promeneur vespéral à la prudence. J'ai signalé par contre l'excellence des eaux de cette ville, mais qui n'ont pas de pareil quant au goût et à la pureté. L'air aussi passe pour souverain. Remarquez, disait notre maître de latin, dont c'était un des thèmes favoris, remarquez combien l'air est vif et pénétrant. Il a cette propriété desséchante et corrosive de la chaux qui ronge les corps. La chaux, du latin cals, calcis. Observez en rue les cadavres des chiens et des chats. Il ne pue point. La raison en est que l'air n'est pas seulement difficile à corrompre, mais qu'en outre il ôte la cause de la corruption même par une résolution des éléments aussi prompte qu'imperceptible. Cette leçon d'alchimie, donnée à grand renfort de gestes péremptoires, n'avait à l'expérience qu'une force probante très relative, surtout le vendredi, jour où l'on transporte sur les marchés de la ville ces carpes, soles et dorades promises aux jeunes des bons chrétiens. La pestilence est alors telle qu'on ferme les fenêtres où passent les charrettes. Ces espèces viennent en effet de fort loin et l'on peut croire qu'elles ont fait seules les dernières lieues du chemin. Tirez un pieux profit de ce désagrément en l'offrant au Seigneur, conseillait benoîtement l'aumônier. Vous ferez véritable pénitence, car le jeûne n'est pas seulement l'obéissance aux règles de notre mère l'Église. Cette opinion sur la qualité rare de l'air madrilène est assez répandue. J'ai entendu souvent prétendre qu'il serait même nocif si sa vigueur n'était affaiblie par les exhalaisons fétides qu'on entretient partout. Si cette opinion a quelque fond de vérité, il faut croire que je ne humais pas assez goulûment les effluves des vases de nuit et des sardines avariées, car je connus peu après les premiers accès du mal qui devaient m'incommoder le reste de ma vie. Cette courte haleine, ces crises d'étouffement qui me saisissent parfois, je les dois sans doute à la subtilité du climat de ce pays. Heureusement, ce mal était alors bénin et je pus le cacher longtemps, craignant sans doute, à juste titre, qu'il ne nuisît à ma carrière de choriste. Le chanteur et l'orgue ont ceci en commun que le souffle est leur premier aliment et le roi d'Espagne n'a sans doute que faire des poumons pantelants, pas plus que des soufflets crevés. Je nous revois tous, autant que nous étions, les quatre Jean, les deux Philippe, les deux Mathieu, et puis Géry, Jacques, Hermès, Eustache et bien sûr Nicolas. 13 garçons que chaque jour qui passait unissait de nouveaux liens. Les amitiés ne naissent que des épreuves. Ainsi, toutes les armées du monde ne sont-elles que bandes de malfaiteurs sans foi ni loi, souvent même sans courage, mais les capitaines savent qu'une fois passés dans la bataille, endurcis par les marches et les travaux guerriers, il leur vient une âme qui tient plus à l'assemblage des hommes et les fait davantage fortes et redoutables que la simple addition des pâles coquins qui les forment. Ainsi étions-nous. Nous avions vécu ensemble l'abandon du pays, les périls de la mer, les fatigues de la route et la morsure des punaises. Nous nous sentions unis, confrérie forte de ces secrets, de ces petites histoires et de ces amitiés. Nous emportions l'uniforme avec cette robe de laine qui ne nous déplaisait pas et nous distinguait aux yeux du monde. Curieux sentiment où entre sans doute quelque animal instinct et que j'ai vu à bien des corps humains formés ainsi en marge du commun. Nous ne savions heureusement rien de la vie, nous ignorions qu'elle allait si vite nous jeter sur des routes différentes, que jalousie et intérêt allaient venir et séparer même les plus unis d'entre nous. Oui, donc, tous ces garçons, je les revois, le gras et le maigriot, le doux et le brutal, le polisson qui ne manquait pas une farce, mais pleurait le soir dans son lit. Je reste persuadé que l'âge change peu de choses à tout cela, le même naturel se marque au fil des ans, corps et âme se conservent la vie entière comme ils étaient à 10 ans, s'appesantissant seulement dans leurs traits beaux ou laids. Comment étais-je en ce temps? Comme je fus toute ma vie, sans doute, car je n'en ai que le souvenir et nul portrait. J'ai toujours été plutôt petit, plus proche de taille de la confrérie des rondelets que de celle des échalas. Si j'avais alors tous mes cheveux, ils étaient d'un châtain banal, tombant en mèches raides que raccourcissait de temps à autre un aide-barbier du palais au bol et au ciseau. J'ai toujours eu l'extérieur banal de celui qu'on croise 10 fois dans la rue sans le remarquer. Je n'avais ni la grâce de Nicolas, ni la belle taille de Mathieu Prévost, ni heureusement le visage tourmenté d'Hermès le Poivre, pour nommer encore 2 autres de mes compagnons. Le talus des vallants de notre maison jusqu'au Manzanares était notre domaine. Nous avions construit des cabanes dans ces fourrés, ainsi que font tous les gamins du monde. Savoir quels visiteurs on admettait le soir dans sa tanière ou quelle expédition punitive on entreprendrait, voilà des questions qui nous préoccupaient bien davantage que les verbes irréguliers de maître Bablincourt. Je nous vois encore, je nous entends causer ainsi sur l'herbe jaunie, après vêpres chantées, dans la douceur des fins d'après-midi du long été madrilène. Nous évoquions encore cette autre vie, lointaine déjà, qui avait été nôtre au pays. Nicolas racontait l'histoire des souris mélomanes de la Sainte-Barbe. Je narrais le cortège des saints innocents, où j'avais été fait évêque. Nous en faisions des épopées grandioses, les enrichissant de mille détails qui, à force d'être répétés, prenaient couleur historique. Nous imitions les personnages hauts en couleur que nous avions connus à Namur et qui nous manquaient aussi, la mine pitoyable du maître d'école, les manies de Fonascu. « Messieurs, nous aurions une pause de 5 minutes !» ne manquait jamais d'annoncer avant d'aller arroser le pied de la Lichos d'un jet sans doute plus vigoureux que le sien.